19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir, ravi de vous retrouver. Vous le savez, comme chaque soir, nous sommes ensemble. Ensemble pour commenter, analyser et puis décrypter l'actualité, vous le savez. C'est comme ça, tous les soirs du lundi au vendredi. Alors, durant une heure, qu'est-ce que je vous propose au menu ce soir? Eh bien tout d'abord, nous allons ouvrir l'antenne pour vous entendre au 01 53 48 3000. Eh bien la conférence de presse aujourd'hui d'Emmanuel Macron, puisque vous le savez, Macron prend à endosser la présidence de l'Union Européenne. Ça y est, la France a endossé donc pour trois mois, puisqu'il y a les élections présidentielles qui commencent au mois de mars. Premier tour, donc. Donc, on reviendra sur cette actualité qui réaffirme, lui, sa volonté, évidemment, d'être intraitable sur les questions de sécurité des Européens. Autre sujet aussi qui nous a frappé, c'est cette primaire à gauche. Eh bien, Anne Hidalgo, elle prend un plein flop en pleine figure. Mais, bon, écoutez, cette proposition se devait-elle évidemment d'être une parmi des solutions qu'elle avait esquissées? Alors, évidemment, là, on peut parler quand même de naufrage. C'est l'expression, le mot qui me vient à l'esprit. Ensuite, la vaccination des enfants contre le Covid-19. Eh bien, sachez-le que le débat est déjà sensible, explosif chez les parents. Et on en parle. Et je vous demanderai, bien sûr, qu'en pensez-vous? 01 53 48 3000, les sujets que je viens de vous exposer, eh bien, vous êtes les bienvenus. L'antenne est ouverte, le standard est ouvert. Vous passez quand vous voulez. Les informer, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et vous le savez, hein, le dicton. Plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Allez, je vais présenter nos débatteurs qui sont avec nous, les débatteurs, tout de suite. Je vais commencer avec la seule femme qui est avec nous, qui bosse d'arrache-pied pour préparer la campagne présidentielle. Sabrina Nourri, bonjour.
Bonsoir.
Comment
bonsoir
ça
aux
va
auditeurs, aux auditeurs. Bah, écoute, je vais très très bien.
L'Union Populaire.
L'Union Populaire.
Oui. Vous êtes membre?
Oui, absolument. Je fais partie du Parlement l'Union Populaire, en charge des questions féministes.
En charge des questions féministes, effectivement. Et vous étonnez absolument. Vous êtes déjà, ça y est, lancé dans la campagne avec Mélenchon.
Je pense que le meeting qui a eu lieu dimanche dernier
à la Défense
a été un véritable succès. Nous avons pu présenter ce Parlement et expliquer en quoi il allait être utile dans cette campagne. Et je pense que ça a été une réussite pour nous. Bon, on a bien vu que les médias n'ont pas trop communiqué, mais bon, c'est pas très important. L'essentiel, c'est que le message puisse passer et qu'on puisse...
Au niveau de l'arche, c'est ça?
Ouais, c'est ça. C'était
absolument. En tout cas, j'ai suivi. À ses côtés, c'est Farid Temsamani. Bonjour, ça, Farid. Heureux de vous retrouver.
Pareil,
consultant, évidemment, et spécialiste de l'Afrique. Comment ça va?
Très bien, et toi?
Bon, bah écoutez, ça va très très bien. Enfin, c'est Abdeslam Itache, lui qui est au sein de l'UDI.
Non,
vous êtes avancé du
délire.
Je me suis retiré. Aïe.
Je suis vice-président du Modem.
Pardon,
95.
Oui, c'est vrai. Ouais. Pardon, c'est vrai.
C'est vrai. Membre du Conseil national.
Autant pour moi. Surtout que vous me l'aviez indiqué.
Surtout qu'il n'a jamais été à l'UDI.
Oui.
Il me semblait, non?
Alors,
je l'étais quelques mois.
Si, il a été, il me
semblait.
Alors,
je l'étais quelques mois à l'époque où c'était Jean-Louis Borloo qui était président.
Oui. Je savais, si.
Mais ça a duré quelques mois. Et quand Lagarde a pris la présidence, j'ai déchiré ma carte.
Déchiré la carte, carrément.
Ouais.
Amin Sa, je ne sais pas où il est passé, Amin Sa, on n'a pas de nouvelles. C'est le maire adjoint sur la ville de la Courneuve. Il sera avec nous. Dans une poignée de minutes, voilà. Écoutez, messieurs, je vais vous donner la parole, je vais distribuer la parole. Tout de suite, la conférence de presse, je vais vous faire écouter un extrait où on lui pose la question sur Éric Zemmour. Désolé de vous poser la question sur Éric Zemmour, mais c'est assez intéressant. Un président de la République qui répond, évidemment, sur le candidat Éric Zemmour. Écoutez donc la conférence des presse qui s'est tenue à l'Élysée tout à l'heure dans le cadre de la présidence de l'Union européenne. Écoutons cela.
D'abord, il n'appartient pas au président de la République, quel qu'il soit, de qualifier ou disqualifier un candidat à une élection à venir. C'est au peuple français de décider souverainement. Il y a des règles, elles sont contrôlées par le juge constitutionnel, pour certaines autres plus techniques par le juge administratif, d'autres fois par le juge, et c'est au peuple souverain de choisir. Donc je ne me dirai pas si ce qu'il convient de penser ou pas. Je ne dirai qu'une chose, c'est que notre pays est un vieux pays fait de valeurs, de culture, de combat, et qu'il s'est à chaque fois grandi d'avoir su regarder ses défaites, mais d'avoir su consolider ses valeurs.
Alors, on voit bien quand même que le président Emmanuel Macron, donc, il glisse un mot, évidemment, en faisant référence à Éric Zemmour. Il renvoie donc à tout cela, à la Constitution, mais en même temps, il ne manque pas de faire un petit commentaire politique, de campagne, Farid Temsamani.
Oui, il fait du en même temps, comme d'habitude, simplement. Il parle de grands pays avec une grande histoire, donc là, d'une certaine manière, il flatte...
Mais il arrive à switcher, la droite, il arrive à switcher comme ça, extrême. Je sais pas comment il fait d'ailleurs.
Et après, il parle de, on se remet des défaites, c'est ça. Hein. Et notamment, je pense, hein, si j'analyse bien, qu'il fait référence notamment au passé pas glorieux justement de la France, notamment à la collaboration. Et je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il fait référence au candidat Éric Zemmour. Après, sur le fond, il est dans son rôle de président.
Alors, ma question,
et de pas candidat encore.
Alors justement, dans son rôle de président, est-ce que cette présidence qu'il doit endosser désormais de l'Union européenne, est-ce que ça va l'aider? Est-ce que ça va lui permettre sa réélection future dans quelques mois?
Ah.
Je fais un tour de table. Justement, allez-y, Farid.
Alors, moi, je pense que c'est acquis tout double, en fait.
Ah.
Oui, parce que quand vous êtes président, parce que comme c'est tournant, donc pendant 6 mois, en réalité, le temps de l'élection, donc 4 mois, quand vous avez cette charge-là, vous êtes très souvent éloigné du pays, premièrement, et éloigné parfois des sujets qui concernent les Français et les citoyens. Or, l'élection présidentielle, c'est d'abord les citoyens français. Donc, j'imagine et je pense qu'ils ont déjà travaillé sur le sujet, c'est qu'ils vont ramener absolument cette présidence française de l'Union européenne sur des sujets qui vont essayer de concerner le maximum de citoyens français. Je pense notamment aux migrants, je pense notamment d'un point de vue social,
salaire minimum,
etc.
Mais
ça peut très vite se retourner contre lui et finalement être un piège. Donc à mon avis, je m'avance pas, mais en tout cas c'est assez délicat. Je pense que c'est pas forcément une bonne chose d'être quand on est président sortant, probablement candidat à l'élection présidentielle.
Ça montre la stature en tout cas.
Non,
qu'il a la stature.
Non, je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que autant François Hollande.
Bah si, autant les autres n'ont pas la stature, mais lui il a la stature.
Oui, mais c'est aujourd'hui personne discute aujourd'hui en France de la stature de d'Emmanuel Macron. Tout le monde sait qu'il est président et il a endossé véritablement le rôle. Qu'on apprécie pas la politique d'Emmanuel Macron, personne discute ça. Ce qui n'était pas le cas effectivement de François Hollande. Pendant très longtemps, on s'est dit mais finalement est-ce qu'il est vraiment président de la République? Il a pas la stature, etc. Donc sur la stature, c'est pas un élément. À mon avis, ce qui va compter, c'est le risque pour les Français de le voir éloigné des préoccupations les plus terre à terre, tout simplement.
Ouais. Terre à terre. Ah oui, le risque de s'éloigner. Ah oui. Bon. Écoutez, alors est-ce que vous partagez cet avis et quel est le vôtre, Sabrina Nouri?
Moi, de ce que je peux comprendre, entendre de ce qu'il se fait là, c'est que déjà, il ne fera pas seulement une campagne aux frais de l'État, déjà. Il va détourner également la présidence de l'Union européenne à des fins électorales. Je m'explique. Cette présidence, elle aurait pu être décalée tous les 14 ans. La France prend la présidence de l'Union européenne.
La dernière mandat, c'était avec Nicolas Sarkozy en 2008.
C'est tous les 14 ans. Bon, voilà. On aurait pu décaler, en fait, cette présidence. La présidence, c'est pas un an. Faut que les téléspectateurs, les auditeurs comprennent. C'est pas un an, deux ans ou je ne sais quoi. C'est 6 mois. Donc, 6 mois, on aurait pu décaler.
Là, ce sera 3 mois.
Oui, mais on aurait pu.
Compte tenu de la première date de l'élection présidentielle. Ce sera pas 6 mois.
Justement. C'est ça qui pose problème démocratiquement.
Si, je vous promets.
C'est
pourquoi, Farid? Enfin, c'est 6 mois, bien sûr que c'est 6 mois.
C'est 6 mois en tant que président de la République française.
Tout à fait.
Et le prochain aura la courte.
On met là 6 mois, là 3 mois pour Macron.
Oui, il fera
3 mois pour Macron et 3 mois
pour. Il fera les 6 mois, rassure-toi.
Exactement.
Mais s'il était lui, il fera 6 mois de toute façon. Donc, ok. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que le calendrier aurait pu être bougé, il ne l'a pas été fait. Mais pourquoi?
Pour quelle raison?
Ah, bah bonne question.
Ah, bah je vous pose la question.
Bonne question.
C'est une vraie question.
Non, c'est pas jouable. Là, on est en train de. Il y a un vrai problème démocratique. Cette présidence, alors il va être président de la France, président de l'Union européenne, candidat aux élections présidentielles. Franchement, c'est pas sincère envers les Françaises et les Français. Et puis il y a des questions démocratiques qui se posent, notamment en termes de temps de parole. comment on va calculer le temps de parole en termes de compte de campagne, en termes de compte de campagne, comment va-t-on faire pour le... Vous savez qu'il y a 400 événements. Non mais je finis là-dessus, j'achève. Il y a 400 événements qui sont prévus pour l'octroyer sur le thème de champion de l'Europe. C'est lui qui se dit comme ça. C'est le champion de l'Europe. Il a 400 événements prévus déjà. Non mais si ça c'est pas une élection sur le dos des Français, moi je ne sais pas comment ça s'appelle.
Alors Farid Tamsamil. Non mais attendez, justement elle provoque débat. Allons-y, mettons les pieds dans le plat.
Au moins raison sur un point, c'est que sur le calendrier, on aurait peut-être pu faire un effort. Là où je suis pas forcément pas forcément d'accord, c'est que je fais confiance aux Français.
Pourquoi il ferait un effort ?
Non mais si dans sa grande bonté et la France aurait il avait décidé de le reporter, en tout cas de décaler la position française, moi je pense que c'est plus complexe que ça.
Il voulait le vivre maintenant.
Voilà.
Non mais il est pas pris de court, il savait qu'il avait la présidence à cette période-là, honnêtement, il aurait pu le décaler.
Ça fait 14 ans qu'on le sait, présidence tournante et c'était
assuré. On le savait depuis très longtemps.
Par contre, moi je pense que ça n'aura pas d'impact. Oui. Alors, oui. Je peux comprendre.
Non, ça va installer le débat. Attendez.
Allez-y,
Abdeslam Itach et ensuite Sabrina Nouri.
En vérité, les présidents sortants, présidence de l'Union européenne ou pas, en réalité, ils profitent forcément de leur stature aux frais du contribuable, malheureusement. J'ai toujours le souvenir de Jacques Chirac.
Jacques Chirac, vous avez raison.
Et je pense que ça n'a pas forcément un impact, c'est que je pense que les Français ne peuvent pas être bernés pour ça.
Ouais.
Je dis pas qu'en temps de temps de parole, par définition, présidence de l'Union européenne.
400 événements qui sont prévus. Vous vous rendez compte comment les Français ne peuvent pas être bernés par
pense,
ça.
Attendez. Si ça peut vous rassurer.
Mais non, il a raison parce que
moi
ça.
Moi, je pense que ça peut être même un piège pour lui.
Alors attendez, on va tenter de savoir pourquoi ça peut être un piège pour lui. Je veux entendre Abdeslam Itach qui lui, pour le coup, roule pour Macron.
Non, je fais partie de la majorité. Oui, mais j'en suis fier, je tiens à le dire.
Alors, il n'y a pas d'honte, c'est pas Marine Le Pen, on parle pas de Marine Le Pen.
Je tenais juste à dire une chose concernant la présidence tournante. Moi, je voulais juste te dire que, en fait, il n'y a pas de réel intérêt parce que l'Europe, c'est encore abstrait, c'est trop loin de nos concitoyens français. Aujourd'hui, on serait incapable de dire qui a été président par intérim avant Emmanuel Macron.
Ouais.
C'est dire. Donc, ça n'a aucun bénéfice. Quand Sarkozy a été président de l'Union européenne sur ce court temps, on n'a pas vu de choses fabuleuses et ça ne profitera pas. Ensuite, moi, je suis quand même surpris par le propos qui laissera entendre qu'il y a toujours de la malveillance derrière les choses.
Vous faites référence à ce que vient de dire Sabrina Nouri.
Je pense à la France.
Allez-y, dites les choses.
Qui ne profiterait pas de cette situation.
Eh ben, laissez-le expliquer sa pensée.
Ça vous gêne ce que j'ai à dire.
Non, mais attendez.
Non, mais ça vous gêne ce que j'ai à dire.
Il va s'expliquer et vous allez confronter vos points de vue. Non, mais c'est bien, c'est intéressant.
Mais voilà,
toujours. C'est ce que pense aussi.
Enfin, ils sont toujours là à préempter le sujet. Il voit le mal partout et évidemment le président préside et il présidera jusqu'au terme du mandat, que ça vous plaise ou non.
Alors Sabrina Nouri.
Je peux l'entendre.
Mais ça ne serait pas revenu dans un débat présidentiel, parce que moi je suis d'aucun parti.
Ouais. Non, c'est pas un débat présidentiel. Évidemment.
Mais cette façon pas toujours tout, de préjuger les décisions d'un président qui fait les choses juste pour dire qu'il fait mal les choses.
Mais ce que dit Sabrina, beaucoup le pensent.
D'abord, ça ne vous grandit pas.
Non, mais beaucoup le pensent. Je vous jure que non. Beaucoup le pensent.
Il aurait pu décaler cette présidence. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait?
Mais pourquoi voudriez-vous la décaler?
C'est tout.
Aujourd'hui, ça fait 14 ans pour le faire.
Il n'a pas demandé à avancer la date.
Non, mais j'entends que ça peut lui desservir. Ça dépend comment il va utiliser le temps qui lui reste pour exercer ce mandat. Ouais. Maintenant, je pose la question. Comment va-t-il exercer ce mandat de la présidence
vous le verrez,
de l'Union européenne?
Il le fera comme il l'a fait pendant 5 ans.
Est-ce que ça va le desservir? Ah bah si c'est comme pendant 5 ans à coup de communication, effectivement, oui.
À coup de communication comme
parti,
tous les présidents. Et,
alors,
et,
on va
et comme
la
le vôtre d'ailleurs.
5 ans de communication, monsieur
le vôtre aussi, il l'a fait pendant 5 ans.
Et je pose une vraie question, les amis. Vraiment? Une vraie question. Est-ce que la présidence de l'Union européenne va lui permettre sa réélection?
Non, vous dites on n'est pas
élu. On continuera de faire le tour de table.
On va parler à l'Assemblée nationale.
Messieurs, madame, le débat continue. Première pause et on se retrouve tout de suite après. Justement pour continuer de parler des sujets qui nous préoccupent. On reviendra aussi notamment sur Anne Hidalgo et son flop. On reviendra sur la vaccination des enfants à partir de 5 ans. C'est tout de suite dans une poignée de minutes. Restez avec nous.
Les informés revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
Les informés continuent, 01-53-48-3000. Vous nous dites ce que vous en pensez. Je voudrais vous entendre partout en France. 01-53-48-3000. Jingle.
01-53-48-3000. Les informés vous donnent la parole.
Le standard est ouvert 19h19 si vous venez de nous rejoindre avec Sabrina Nouri, débatteur, influenceur des Sabrina Nouri qui fait partie de l'Union Populaire, au Parlement de l'Union Populaire, donc chargée des questions féministes. Farid Temsamani, consultant spécialiste de l'Afrique et enfin Abdeslam Itache qui lui est le vice-président du Modem 95 mais également aussi le membre du Conseil National. Messieurs, madame, je voudrais qu'on finisse avec Emmanuel Macron. Est-ce qu'il peut évidemment tirer quelque chose de cette en ces trois mois évidemment, pour endosser la présidence de l'Union Européenne, est-ce que ça peut lui faire défaut? Est-ce que ça peut l'entacher? Est-ce que, comme vous dites vous aussi, Farid Temsamani, ça peut le faire déconnecter de la réalité de la population française, des Français, de leurs préoccupations? Est-ce qu'il peut être perché? Voilà, je vous pose la question, comme disent les jeunes dans les quartiers. Farid Temsamani.
Perché, je n'irai pas jusque-là quand même, connaissant un peu l'intelligence d'Emmanuel Macron. Mais moi, je pense que ça peut le desservir sur certains sujets. On a évoqué notamment hors antenne sa volonté d'harmoniser notamment les salaires minimums en Europe.
Oui.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de pays ont des salaires minimums qui sont très 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 bas.
C'est vrai.
Donc effectivement, pour l'Union européenne, ou en tout cas pour les citoyens de ces pays-là, c'est une excellente chose qu'ils s'emparent de ce dossier-là. Mais pensez-vous aux Français, ou en tout cas à nos auditeurs qui nous écoutent, et qui, eux, sont smicards en France.
Ah, ça, c'est vrai.
L'harmonisation, ça ne veut pas dire l'augmentation du SMIC, non. Par exemple, en France.
Nivellement,
ouais. C'est un nivellement pour les autres, mais pour les Français, ça ne change de strictement rien.
C'est pas
donc
fait.
Ça, ce sont des petits pièges qui peuvent sur le papier, qui peuvent et potentiellement lui nuire, en tout cas, je pense, pendant la campagne électorale.
Sabrina Nouri, ensuite Abdeslam Itache.
On sera là pour les dénoncer, je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ça peut être juste une façade. Aujourd'hui, quand il parle devant les journalistes, il martèle bien que la politique de l'austérité, il va la continuer. Parce qu'elle s'était un petit peu arrêtée avec le Covid, ils ont mis en stand-by les déficits et cette politique.
C'est quoi la politique de l'austérité?
La politique de l'austérité, bah c'est par exemple l'harmonisation entre les pays sur les salaires, donc ça va pas forcément être utile aux Français. Donc ça c'est la politique qui a été menée jusqu'à présent sur par exemple l'hôpital public, toujours moins de fonctionnaires. Donc ça, c'est vrai pour l'hôpital public, c'est vrai pour l'administration, moins de fonctionnaires. Donc voilà, les directives européennes, je vous rappelle qu'en 2017, Emmanuel Macron n'avait pas de programme. Le programme, c'était les directives européennes, ce qu'il a appliqué depuis 5 ans maintenant. Moi, je pense qu'il faut dire stop.
Abdeslam Itache.
Alors oui, il n'avait pas de programme. En fait, il a pris les idées des Français. Vous avez raison. Mais moi, je vais revenir sur
les idées des Français, c'est la suppression. Alors, si les idées des Français, c'est la suppression, je crois que vous ne connaissez pas les idées des Français, monsieur. Si l'idée des Français, c'est la suppression de l'ISF, je crois que vous vous trompez.
Mais vous auriez fait mieux. Et d'ailleurs, sur le dernier mandat, vous avez fait tellement bien.
Ne méprisez pas les gens. Ne méprisez pas les Françaises et les Français, s'il vous plaît. Ça fait 5 ans qu'on est mené par une politique.
Que je méprise les gens,
faut pas exagérer.
Hein.
La casse du code du travail, la casse de l'hôpital public,
oui,
ce sont les idées des Français.
La coupe de plaie, j'ai l'impression.
Ça a été sous Hollande.
On sent
la loi
alors,
travail.
Attendez. Alors, attendez, laissez-le parler, s'il vous plaît.
Alors, socialiste.
Allez-y.
Juste, on parlait justement des salaires, du nivellement, de l'harmonisation des salaires. Moi, je tiens à rappeler que il y a des sociétés françaises qui sont domiciliées, par exemple, je prends cet exemple, qui sont dans le transport, qui sont domiciliées en Pologne, qui emploient du personnel polonais pour faire du transit européen. Eh bien, on a concrètement des emplois qui quittent la France et des sociétés qui emploient des gens à 400 euros par mois pour faire exactement le même travail qu'un citoyen français. En termes de compétitivité, nous ne sommes pas bons parce que les salaires sont plus importants en France qu'ailleurs. Le but, c'est pas diminuer le SMIC. C'est impensable et même impossible. Le but, c'est de réévaluer les salaires sur l'ensemble de l'Europe pour que justement il n'y ait plus cette fuite de ces entreprises qui vont s'installer dans ces pays où
on fait quoi des travailleurs détachés, à un moment donné
les emplois qui sont partis là parce que le SMIC était moins cher en Pologne, ils vont revenir en France.
Non mais
beaucoup d'entreprises reviendront certainement, ou alors en termes de compétitivité, n'y retrouveront peut-être pas leur compte. Et on le voit bien, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui reviennent en France, notamment sur les produits de luxe. On a quand même beaucoup.
On parle pas des emplois au SMIC.
Non, mais on a une délocalisation qui est à l'inverse.
Effectivement, oui. qui reviennent.
Le but, c'est de permettre aussi à tout Européen de pouvoir vivre décemment avec
un
salaire.
Alors, attendez, justement, on va faire juste un petit tour de table. On vient de recevoir donc Amine Saar, le maire adjoint de la ville de La Courneuve. Bonjour Amine, comment ça va ?
Bonjour Adil Farkan.
Tout va bien, on va ouvrir votre micro en direct. Vous nous rejoignez. Donc, je vous demander votre avis sur la conférence. Vous avez suivi la conférence de presse d'Emmanuel Macron ?
Non, pas du tout. J'étais en
voiture. Eh bien, on avance, ça nous arrange. Vous nous avez écouté un peu ?
Un peu, mais oui. Là dans le sas.
Ouais. Alors écoutez, on va parler de la présidentielle, vous savez quoi ? Concernant la gauche. Alors la gauche qui s'unit contre Anne Hidalgo, est-ce que c'est la question que je vous pose, hein ? Tour à tour, vous savez quoi ? C'est les écologistes, les insoumis, vous-même donc, les communistes, tous, hein, tous, chacun à tour de rôle, donc pour participer à un système de désignation d'un candidat potentiel commun à gauche. Alors ça prend pas, on sait pas pourquoi ça prend pas. Est-ce que c'est les égos ? Ça vous fait sourire, ça, Marine Hanouri ? Je sais, mais ça prend pas. Et puis Anne Hidalgo, hier...
Faut pas lui poser ce genre de questions.
Anne Hidalgo, hier, elle s'est pris un flop, ça a été le naufrage, la pauvre. Elle l'a très mal vécu, qu'est-ce que... Alors, Sabrina Hanouri, cette gauche ?
Où est la gauche ?
Ah ben moi je vous retourne la question. Emmanuel Macron est de gauche, a priori.
On a un homme de gauche qui va vous répondre aussi.
Non mais a priori,
vous êtes deux de gauche.
Non mais a priori Emmanuel
de gauche. Vous êtes deux de gauche.
Emmanuel Macron était de gauche, a priori il applique une politique de droite. Bref.
Alors oui,
mais ce que les gens demandent.
Ça franchement vous l'avez dit.
Ah s'il vous plaît. Laissez-la répondre. On veut entendre son point de vue.
Non mais ce que les gens demandent.
Qu'est-ce qui se passe à gauche ?
Non mais attendez, ce que les gens demandent, ce n'est pas de nouvelles têtes pour changer le spectacle.
Ah.
D'accord ?
Pourtant, il
demande des idées nouvelles et surtout un changement de cap radical avec la politique qui a été menée jusqu'à aujourd'hui. Quand Madame Hidalgo dit le matin quelque chose et son contraire, pas plusieurs mois après ou plusieurs le soir même. Non mais on peut se poser la question de qu'est-ce qui s'est passé dans la journée.
Mais il s'est passé quelque chose dans la journée.
Ah, il s'est passé quelque chose dans la journée. Elle a fait un pari. Non mais attendez, on ne peut pas. Il y a aucune cohérence dans ce qu'elle propose. On est à quatre mois.
On ne rencontre pas de succès la pauvre. Je vais vous donner la parole.
On est à quatre mois du premier tour des élections présidentielles.
Et c'est beaucoup.
Il n'est pas sérieux de se présenter aux Français en disant voilà, il nous reste quatre mois. On va choisir un candidat commun. Et on va élaborer un programme tous ensemble. Ce n'est pas sérieux. Nous avons fait cette démarche il y a plusieurs années, c'est-à-dire il y a 2-3 ans, avec Jean-Luc Mélenchon qui a voulu faire la Fédération populaire autour d'un programme qui est l'avenir en commun, le mettre sur la table, voilà, le mettre sur la table et discuter des propositions de 2017 pour avancer. Personne n'a répondu. Personne n'a répondu.
Oui,
la décision a été prise. La décision a été prise. Nous avons un programme de 2017 qui a été réactualisé. Nous avons énormément travaillé dessus aujourd'hui avec tout le travail parlementaire.
Donc la proposition fait un flop.
Je regrette, mais la proposition est.
Alors, Abdeslam Itach.
On est d'accord sur la décision qui fait un flop, mais moi j'avais une question. Les socialistes, ils sont à gauche ou pas ?
Attendez, il faut leur poser la
question. Non, je vous pose une question ensuite.
Moi, je
ne
suis pas socialiste, monsieur.
Non, mais répondez-moi, parce que pendant longtemps.
Je suis pas du Parti
Socialiste. Parce que pendant longtemps, vous avez dit.
Peut-être
vous avez dit, non, mais le Parti Socialiste n'est pas à gauche. Donc, il est à gauche ou pas ?
Mais moi, j'ai pas dit que le Parti Socialiste n'est pas à gauche.
Les auditeurs apprécieront le fait que vous ne répondez pas à la question.
Emmanuel Macron, qui était dans le gouvernement de François Hollande, qui est a priori à gauche, a priori.
S'il vous plaît,
on applique une politique de droite.
Alors, on
va faire un tour
de table. Justement, on va poser.
Je dis que c'est faux.
Je n'ai pas développé encore.
Alors, développez, allez-y.
Alors, moi, je veux juste vous dire.
Elle n'est pas socialiste.
Nous avons la gauche la plus bête d'Europe.
Ouais.
La gauche la plus bête d'Europe.
Pourquoi ?
Qui est incapable de se rassembler et de désigner un candidat. Vous avez déjà eu plusieurs réunions au cours de l'année, d'autres rendez-vous pris quelques mois après, et vous n'avez jamais réussi à vous entendre pour une chose. J'ai employé le terme tout à l'heure, le tout à l'ego. Vous avez des gens qui ont un ego démesuré, à savoir, à commencer par votre leader spirituel qui est Mélenchon, qui est un ancien d'ailleurs du Parti Socialiste, qui était biberonné au PS et qui a été ministre de Lionel Jospin. Vous le suivez, c'est très bien, et n'en changez pas. Mais ça sera pas le choix des Français. Ça sera pas le choix des Français, je tiens à vous le dire, et on en reparlera. Bien. On en reparlera dans.
Ils peuvent réagir. Ils peuvent réagir au 01 53 48 premier. Tiens, je voudrais vous entendre, les amis auditeurs. 01 53 48 3000.
Comme vous le faites. Donc je persiste. Vous avez la gauche.
Oui, faut pas parler à leur place.
Ah non, faut pas parler à leur place.
Vous avez raison. Aminsa,
vous l'avez fait.
Aminsa, Farid Tamsamani, Aminsa, qui est maire adjoint à la Courneuve justement.
Oui. Alors, moi, ce que je regrette, c'est que.
Rapprochez bien le micro, juste.
Ce que je regrette, c'est que depuis l'annonce d'Anne Hidalgo hier soir, on commente l'annonce plus que ce qui devrait découler ou non de l'annonce. Moi, j'ai pas de problème avec ça. D'ailleurs, moi, je sais pas quelle était la bonne formule. Je sais pas s'il faut une primaire ou non, il fallait l'annoncer hier ou non, ou si au contraire il fallait s'entendre plus tôt. Je crois évidemment qu'il y a une question d'ego là-dedans, évidemment. Oui. Mais il y a une chose dont je suis certain, c'est que compte tenu de la situation, compte tenu à la fois de la situation politique, de l'état du pays, du débat nauséabond dans lequel on nous enferme depuis un certain nombre de semaines et de mois. Oui. Quand j'évoque le débat nauséabond, c'est évidemment toutes les questions d'identité, etc., qui sont véhiculées et entretenues par les candidats de droite et d'extrême droite, enfin la gauche.
Donc il n'y aura pas d'union de gauche. Jamais. Et
moi, je le regrette profondément.
C'est dommage, elle n'existe plus, la gauche, elle n'existe plus, elle n'est plus dans le paysage, on ne sait pas. Elle est créditée même d'ailleurs de 3%, vous rendez compte.
Mais je le dis très tranquillement, avec 5 candidats de gauche.
Pardon ? C'est Madame Hidalgo.
Avec 5 candidats, la gauche ne peut pas espérer, évidemment, d'arriver.
Donc le prochain président ne sera pas de gauche.
Alors, justement, on va aller s'intéresser du côté du standard. Justement, j'avais envie d'entendre les auditeurs, parce qu'on ne va pas parler à leur place. J'ai Aurier de Lyon, la ville de Lyon, justement, où on a une toute nouvelle fréquence, les Lyonnais commencent à venir nous appeler. 0153 48 3000, je voudrais vous entendre. Bonsoir Auria.
Bonsoir à tous.
Bonsoir, on vous écoute alors. Justement, qu'est-ce que vous en pensez ?
Eh bien écoutez, je suis un petit peu encore déçue par tout ça.
Oui.
Tout le monde essaie de se tirer un petit peu la balle en disant moi je suis le meilleur. En attendant, on critique tous Macron.
Ouais.
Ils vont tous voter pour lui au second tour.
Droite, de gauche, hein. Mais pourquoi ne pas trouver un candidat qui relie tout le monde, qui prend un peu des idées droites, un peu des idées de gauche.
Bah, il s'appelle Macron.
Il s'appelle Macron, justement.
Il s'appelle Macron.
Oui, mais il n'est pas bête. En attendant, il a été élu. On en a pour un petit instant encore. Mais franchement, pourquoi pas trouver quelqu'un qui soit comme lui, ou pourquoi pas lui. Mais en attendant, il n'y a personne qui le... Ah, il le dépasse.
Hein, attendez, Aurélien, vous faites réagir justement le débatteur. Farid Tamsamani, je vous écoute. Je distribue la parole. Après, on a quand même Mohamed du 91. Attendez, hein, 01 53 48 3000. Merci, Aurélien, de votre appel du côté de Lyon. Farid Tamsamani.
Bah, premièrement, Hidalgo fait cette annonce. C'est en réaction à Arnaud Montebourg. C'est qu'elle n'a pas sorti ça hier juste parce que.
Oui, c'est vrai, c'est Arnaud Montebourg.
Et son score aussi.
Et pourquoi elle a sauté sur l'occasion ? Pour une raison très simple, c'est que sa campagne n'a absolument pas pris.
Non, ça prend pas.
Et si on fait avec un peu de lucidité, ce qui est un peu triste d'ailleurs pour ce pays-là, qui est quand même un pays qui a quand même une base ouvrière et une base de gauche quand même relativement importante, l'ensemble
la
des
France
candidats.
La France est à droite maintenant.
Et la France, ça fait longtemps qu'elle est à droite, mais malgré tout, elle n'a jamais été autant à droite. C'est ça la question. Et là, en fait,
c'est des abstentionnistes.
Non, mais elle est à droite. Non, c'est une réalité.
Et vous faites
c'est
quoi
vrai.
Des abstentionnistes.
Non, c'est la vérité, ma chère.
Les abstentionnistes sont pas plus à gauche.
Elle
n'est
plus du tout à gauche.
En fait, les abstentionnistes sont globalement équivalents à ceux qui votent. Alors, j'ai aucun moyen pour le vérifier, mais la réalité scientifique, c'est que si on faisait voter l'ensemble des Français de manière obligatoire, vous aurez certainement des marges d'erreur ou de progression, mais pas beaucoup plus. Juste c'est une chose, l'ensemble de la gauche aujourd'hui, réunie, quels que soient les instituts de sondage, globalement fait autour du quart des votants au premier tour. L'ensemble. Ce qui est quand même navrant, en réalité. Et Hidalgo, qui sait qu'en fait, il y a un gros souci, c'est qu'elle s'est engagée au nom du Parti Socialiste. L'argent qui est mis sur la table est celui du Parti Socialiste. Derrière, il y a quand même une logique financière. C'est-à-dire qu'en cas de non-remboursement, en fait, le Parti Socialiste, comme un parti
ruine,
historique, effectivement, met la clé sous la porte. Donc, il y a la première bouée de sauvetage qui avait été envoyée par Montebourg. Elle s'est dit, allons-y, je vais peut-être m'y jeter et peut-être qu'on fera quelque chose. Là où je suis d'accord, à ce qui a été dit tout à l'heure. C'est que ça arrive beaucoup trop tard. Et si je prends un seul exemple, 1981, la victoire de François Mitterrand, ça a mis 2 ans commun de François Mitterrand.
On avance. J'aimerais entendre Mohamed du 91. Bonjour Mohamed, bonsoir.
Bonsoir à vous tous.
Bonsoir. Vous nous appelez de quelle ville du 91?
Moi, j'habite à Longjumeau, dans l'Essonne.
Dans l'Essonne, Longjumeau. On vous écoute, mon cher Mohamed. Alors, votre avis à vous, c'est quoi?
C'est un débat très passionnant et très animé sur votre plateau.
Toujours, comme tous les soirs, vous le savez.
Et comme tous les soirs, exactement. Mais en fait, c'est à chaque élection, ça revient cette histoire de faire une liste commune. Et à chaque fois, on voit que les différents partis de gauche n'y arrivent pas. Voilà. Ils n'y arrivent pas parce qu'il y a des problèmes d'égo. Mais au-delà des problèmes d'égo, c'est qu'ils n'ont jamais réussi
à présenter un programme commun.
Et moi, je me souviens, il y a quelques mois, la France Insoumise a proposé de travailler sur un programme commun.
Oui. C'est ce que disait Sabrina Loury, qui est sur le plateau.
Exactement. Ça a été refusé par les autres partis. La réalité, aujourd'hui, c'est que Arnaud Montebourg, qui est à 1%, et Anne Hidalgo, qui est à peu près à 4%, se réveille. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que à l'issue de 2022, d'élection présidentielle, ils vont terminer le Parti Socialiste qui se retrouve à moins de 5% et donc possiblement ne pas être remboursé de sa campagne électorale. Donc,
c'est ça.
Ils se réveillent et se disent aujourd'hui, bon, bah, faut qu'on fasse quelque chose et qu'on essaie de sauver notre parti.
C'est ça.
Moi, honnêtement, je vois pas d'alliance possible à gauche.
Ouais. Bon, bah, écoutez, en tout cas, oui.
Est-ce que je demande solennellement aujourd'hui
aux
partis de gauche, c'est de retirer leur candidature et de s'aligner derrière celui qui peut éventuellement être au second tour et battre
Mélenchon.
Le ou la candidate de droite.
C'est l'extrême droite. C'est la personne la plus charismatique.
Jean-Luc Mélenchon.
Dans les sondages aussi, plus que Jadot.
Non. En 2017. C'est ça,
il y a Jadot aussi qui est charismatique. Merci Mohamed pour votre intervention.
Merci Mohamed.
C'est pas faux ce que vous nous dites à Mohamed. C'est vrai. Il dit quelque chose de pas inintéressant. C'est-à-dire voilà, tous derrière quelqu'un, évidemment, qui va représenter, qui sera charismatique.
Un homme providentiel, il n'y en a pas à gauche.
Alors, Aminsa, dans l'ordre.
Mais Mohamed a complètement raison. Évidemment qu'il faudrait que tout le monde se rassemble derrière une personnalité. Sauf qu'il faut trancher qui peut être cette personnalité.
Quelles que soient les idées.
Ben non, il y a un socle de gauche, évidemment. Moi, je suis pas de ceux qui pensent qu'il faut être d'accord sur tout pour s'assembler. Au contraire, il faut un socle commun. On sera pas d'accord sur tout. Mais moi, je préfère être avoir un président ou une présidente de la République avec
lequel j'ai des désaccords
extrême gauche. Mais on gouverne des localités ensemble.
Ah oui,
on gouverne
vrai,
des localités ensemble. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas le faire pour le pays? À la Courneuve, on le fait.
C'est vrai, vous avez raison.
Moi, je vois pas de difficulté là-dessus.
Vous êtes à Ivry.
La question.
Brétigny, excusez-moi.
Enfin, moi, encore une fois, les commentateurs commentent et les politiques doivent prendre leurs responsabilités. Que les gens commentent les annonces d'Anne Hidalgo, moi ça me pose pas de problème. Mais les politiques, les responsables politiques qui vont avoir une responsabilité importante dans cette échéance, ils doivent faire.
Alors pourquoi ça prend pas ce que vous dites, Amine ?
Mais Anne Hidalgo hier,
vous moi, me dites localement ça prend, vous faites des choses ensemble.
Ça vaut évidemment, mais je crois qu'elle a eu quand même un esprit de responsabilité, peu importe les raisons qui l'ont poussée à faire ça. Mais je crois que ça a eu le au moins le mérite de susciter le débat. D'ailleurs, c'est ce que on est en train de faire ici. Donc oui, il y a une main tendue, il y a une volonté de rassemblement. Que les commentateurs et les journalistes commentent, c'est une chose, mais les responsables de politique.
Eh bien, on se retrouve dans une poignée de minutes. Le réalisateur me pousse à marquer la pause pub et on se retrouve avec Abdeslamitash et Sabrina Nouri qu'on n'a pas entendu justement sur cette question-là. Et on va continuer d'avancer. À tout de suite, ne bougez pas.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h, 20h, les informés avec Adil Farkan.
Parents, c'est plus.
Il est 19h42 et on nous entend en antenne, messieurs et madame. Si vous venez de nous rejoindre, 01 53 48 3000, vous voudrez vous entendre partout en France. Aminsa, justement, qui est avec nous, débatteur influenceur, avec Abdeslamitash, avec Faïd Tamsamani. Et enfin, Sabrina, la seule femme avec nous, Sabrina Loury. C'est reparti.
Beurre FM, 19h, 20h, les informés avec Adil Farkan.
J'ai un peu surpris Giovanni. Il va falloir s'y habituer, hein, Giovanni, hein, à la réalisation. Allez, je sais qu'Abdeslam Itlash.
Itlash, ouais, Abdeslam Itlash.
Abdeslam Itlash.
Ça arrive.
Itlash, Itlash.
Clash pas mal.
Sabrina, et on avance sur les vaccins.
Il a pas beaucoup de temps d'antenne. Non, mais juste deux choses. Le Parti Socialiste aujourd'hui a deux hypothèses. Disparaître ou disparaître. Et je m'explique. Alors. Le premier, c'est.
Parce que ce qu'a dit Amin Sass, c'est plutôt.
C'est le petit score. Et en effet, ne pas se faire rembourser ses frais de campagne et faire en deçà de 5, condamnerait le Parti Socialiste. La deuxième, c'est le fait de ne pas présenter de candidat. Et on le sait, en 81, lorsque Mitterrand a été le candidat unique de la gauche, qu'est-il arrivé aux communistes? Ils ont disparu parce qu'ils n'avaient pas présenté de candidat à cette époque-là. Et qu'aujourd'hui, l'intérêt de tous ces mouvements de gauche est de continuer à exister pour les élections suivantes et continuer à exister. Aujourd'hui, c'est ça, c'est le destin du Parti Socialiste qui m'importe peu et je dois vous le dire, je vous donne le fond de ma pensée, il peut disparaître. Le dernier mandat qu'ils ont fait a été le mandat de la lâcheté et du renoncement. Renoncer à toutes les promesses de campagne, à savoir le récépissé du contrôle aux faciès, le droit de vote des étrangers, et j'en passe.
Il a retourné sa veste.
Et derrière ça, en contrepartie, on a voulu nous mettre la loi de la déchéance de la nationalité française. Donc, voyez bien que Et c'est là que je dis que ça a été le mandat du renoncement, le mandat de la lâcheté.
Hollande
a été lâche et à aucun moment n'a mis dehors Manuel Valls qui a détruit le Parti Socialiste et au passage a un petit peu détruit la gauche, l'image de la gauche. Alors, donc voilà.
Tour de table. Sabrina Nouri, notamment ce que dit Abdeslam Itlash, mais surtout ce que dit Amin Sa. Pourquoi ça prend pas sur la forme nationale? Sur le plan local ça marche, mais pas sur le plan national. Travailler tous ensemble.
Comme il l'a dit à juste titre tout à l'heure, on a proposé cette union, enfin cette fédération plutôt populaire. Nous l'avons proposé avec des propositions.
Avec les livres,
il y a plus de 600 propositions qui sont faites dans l'avenir en commun. Moi, je ne comprends pas encore aujourd'hui. Enfin, si maintenant on le comprend, hein, puisque c'est une histoire d'ego, de parti, de ne pas mourir, etc., de remboursement de frais de campagne, etc. Je pense que les Français et les Françaises méritent mieux. Et moi, je leur fais entièrement confiance. Comme tout à l'heure, Mohamed, notre auditeur qui nous a appelé, il a eu
de longs jumeaux
qui a eu une réflexion de bon sens en fait. Il a dit bon, voilà l'état aujourd'hui de cette élection présidentielle. Nous sommes à 4 mois. Quels sont nos candidats? Quelles sont nos chances de l'emporter? Notre seule chance de l'emporter, c'est se mettre derrière Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, je pense et moi je fais confiance aux Françaises et aux Français qui réfléchiront en bon sens et se mettront derrière.
Vous êtes capable de Jean-Luc Mélenchon?
Parce qu'il y a aussi un programme. Il y a aussi un programme. C'est pas juste se mettre derrière un homme.
C'est un programme
et une équipe.
Donc ils doivent épouser votre programme.
Amin Sass, s'il vous plaît.
Anne Hidalgo a été très très claire lorsque la question lui a été posée hier soir. Est-ce qu'elle soutiendrait quel que soit le candidat qui sortirait gagnant de cette primaire? Elle a dit oui. Donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Moi, ce que je dis, c'est que les responsables politiques, que ce soit Yannick Jadot, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou d'autres, ils ont la responsabilité de l'union de la gauche. Et celui qui caracole en tête, peut-être plus que les autres. Donc, c'est pas une attaque. C'est au contraire de dire que ceux qui sont en capacité de gagner, parce que ça suffira pas de dire les électeurs trancheront et puis ils feront le bon choix. C'est pas vrai.
Rapidement, la réalité, rapidement. C'est que... Allez-y, Sabrina Nouri.
Alors, nous avons donc essayé de faire cette union, entre guillemets, par le sommet. On va dire ça comme ça. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc, l'addition de personnalités, de responsables politiques, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on a choisi, nous, à la France Insoumise, faire l'union populaire, c'est-à-dire rassembler le maximum de Français et de Françaises sur des propositions, sur des propositions.
Et aujourd'hui,
beaucoup nous rejoignent du monde syndical, des collectifs.
Vous l'entendez?
Ils nous rejoignent, comme par exemple Aurélie Trouvé, qui était la présidente d'Attaque. Rejoignez-nous.
Pas parce que je le dis, le spectacle qu'on offre aux électeurs avec ces 5 candidatures, peut-être moins, j'en sais rien. En tout cas. Tant qu'on n'aura pas passé l'obstacle du débat sur les individus, on ne pourra pas être en capacité d'être entendu dans les propositions de fond que l'on fait. Peu importe qui à gauche, mais tant qu'on n'aura pas tranché ce débat de qui à la présidentielle, on va continuer encore pendant 4 à 5 mois à.
On va pas y arriver.
Qui mène la majorité de gauche. Alors, Sabrina, vous accepteriez que ce soit un autre candidat qui tienne, qui soit candidat de cette gauche rassemblée?
Bah franchement, je vois pas qui. Hein.
Non, mais en dehors de Mélenchon.
Excusez-moi,
mais vous voyez, vous répondez.
Allez, je vais commencer par Item Samani. Donc, vaccination, dernier sujet des enfants. Pourquoi le sujet est-il si sensible, si explosif? La vaccination des enfants, le Covid-19.
Bon, on a vu déjà que la vaccination était sensible pour tout le monde, déjà, vu les réticences d'un certain nombre, enfin en tout cas de moins en moins, mais en tout cas de pas mal de monde à l'époque. Des enfants, pourquoi? Parce qu'en fait, on nous a...
Les enfants de 5 à 11 ans.
Voilà.
C'est tôt. Hein.
Il me semblait, je dis bien, il me semblait qu'ils étaient ceux qui, justement, étaient le moins propices à choper le Covid. En tout cas, il y a encore quelques semaines, quelques mois. Aujourd'hui, on nous parle de vaccination pour les enfants à partir de 5 ans. Voilà. Bon, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin. Pourquoi
vous
pas?
Vous avez un avis? On n'a pas besoin de...
Moi, je pense que ce n'est pas forcément nécessaire. Après, si c'est des vecteurs de transmission très importants, pourquoi pas? Je ne suis pas contre. Mais il faut qu'on m'apporte aussi l'intérêt, tout simplement.
Sabrina Nori.
Oui, donc moi je vais partir. Moi je suis pareil, hein, je ne suis pas médecin. Moi je pars de ce que raconte et ce que dit l'OMS. L'OMS dit bon, la vaccination sur les enfants, c'est pas qu'elle est contre ou qu'elle refuse, c'est que si et seulement si l'épidémie s'aggrave, mais ça sera le dernier palier, le dernier recours pour agir sur les enfants.
L'OMS.
D'accord, ça c'est ce que dit l'OMS. Moi, ce que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une crise de Covid maintenant depuis plus d'un an et demi, et que les propositions qui ont été faites, il y a des propositions qui peuvent être appliquées immédiatement, mais ce qui n'est pas fait, par exemple, la gratuité des tests. On va rentrer dans une période de fête, double fête, Noël, jour de l'an, et aujourd'hui, on nous explique qu'on va fermer les boîtes de nuit, et puis c'est tout finalement. Et donc, la gratuité des tests, pourquoi? Pourquoi ne pas mettre la gratuité des tests? Ça pourrait permettre à beaucoup, beaucoup de familles de pouvoir se faire tester et de ne pas propager le virus. Et puis, je finis, la levée des brevets sur le vaccin. C'est toujours pas levé. C'est 1000 dollars la seconde pour le vaccin. 1000 dollars la seconde. Pourquoi on ne lève pas les brevets? Pourquoi les pays du tiers-monde, les pays pauvres, ne peuvent pas se faire vacciner? Tant que les pays de l'eau. Ouais, bah, pas aussi vite et pas aussi.
Pas aussi vite et pas aussi rapidement.
Pas aussi rapidement que nous, hein.
Il y a quand même double vitesse, s'il vous plaît. Et ensuite, Aminsa. Allez, vous avez 30 secondes. 30 secondes, 30 secondes, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Mais si vous suivez un petit peu l'Europe, vous
s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Mais alors. Concernant la vaccination, alors
pas de clash.
Moi non plus, je suis pas médecin et il y a un conseil, scientifique qui pense ces sujets-là et je pense qu'ils sont en meilleure position que moi pour prendre une décision de cette nature-là. Ensuite, se poser la question à savoir s'il est pertinent ou non de vacciner des enfants de 5 à 11 ans. Alors, je ne suis pas médecin, donc je vais réagir en tant que père. Moi, j'aurais quand même un petit peu de mal à vacciner un enfant de 5 ans, d'autant plus que nous n'ont peut-être pas tout le recul pour pouvoir savoir de quoi il s'agit. Et je vais y venir. Bon, j'ai mes deux doses. On parle d'une troisième dose. Je suis pas super fan de ça. surtout qu'il y aura peut-être une quatrième, voire une cinquième dose. Où est-ce qu'on va? Et je pense qu'on part vers l'inconnu. Et c'est quand même assez compliqué. Et je pense qu'il faut de la clarté, de la transparence. Par rapport à tout ça.
C'est quasiment une fois par an.
Allez, Amine, ça, s'il vous plaît.
Moi, je suis un peu comme vos invités ici. C'est que moi, j'essaye d'écouter les sachants. J'essaie d'écouter les médecins, les épidémiologistes, qu'est-ce qu'ils disent sur ce sujet. Et alors, oui, ils ne sont pas toujours d'accord, c'est vrai, mais au moins, ça a le mérite de faire avancer la science. Ça, c'est la première chose. Mais pour répondre à la question, moi, je crois que c'est un tout petit peu prématuré de s'engager dans cette voie-là. D'abord parce que, on l'a dit, les scientifiques, la communauté scientifique n'est pas en consensus sur cette question. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il y a déjà un certain nombre de réticences importantes de la part de l'opinion vis-à-vis de la vaccination. Je crois qu'il faut d'abord... et on a encore un peu de marge puisqu'on n'est pas dans la même situation qu'il y a un an ou un an et demi, on le voit bien, malgré 60 ou plus de 60 000 cas jour, on n'est pas à saturation des hôpitaux.
Merci à vous. Oui.
J'avais pas terminé.
Non mais ça y est, on l'entend là.
Ah très bien.
On ferme la boutique. Je suis désolé.
Je suis arrivé un peu en retard.
Non mais c'est pas ça, c'est que je suis contraint de rendre l'antenne. Aminsa, à très bientôt.
À très vite.
Abdeslam Itach,
merci,
à très bientôt.
À très vite.
Très passionnant ce soir. Farid Tamsamani, à très bientôt.
À bientôt. Merci.
Sabrina Nouri, à très bientôt aussi également.
À très très bientôt.
Absolument, à la réalisation, c'était Giovanni. Tout de suite, c'est Time Sport avec Bilal Nedman de 20h à 21h. Ah, il n'y a pas de Time Sport ? Ah d'accord, il n'y a pas de Time Sport ce soir, exceptionnellement.
On peut prolonger.
Allez, prolongeons, allez, allons-y. À demain, avec autant de plaisir. Demain, on est vendredi. Déjà, vous vous rendez compte comment ça file ? Impressionnant. Merci aux auditeurs. À demain avec autant de plaisir. Et vous le savez, on ne lâche rien. Ciao, ciao.
Beurre FM, 19h, 20h, les informés avec Adil Farkan.